Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. Et ma prochaine invitée, si vous avez suivi un peu la boxe hier soir, vous la connaissez, c'est Marie-Ève Dicker. Salut Marie-Ève.
Hey, salut.
Merci beaucoup, premièrement, de prendre le temps de discuter avec nous cet après-midi. C'est très apprécié.
Ben, c'est toujours un plaisir pour moi. Je suis très reconnaissante du travail que vous avez fait pour justement rendre ce combat-là populaire et attrayant. Ben, ça... Vous avez tout couvert, donc pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous.
Ben, excellent. Marie-Ève, écoute, avant de parler du combat comme tel, je t'ai beaucoup écouté cette semaine et puis pour avoir couvert beaucoup de galas de boxe là, et plusieurs années de boxe, je sais à quel point dans le monde de la boxe, il y a 10 et 12 et 15 solutions pour éviter les meilleurs, pour éviter des combats difficiles, pour éviter des adversaires difficiles. Tu as décidé de te déplacer, d'aller à Flint au Michigan, dans la cour de ton adversaire. Tu connaissais le niveau de difficulté, mais tu as quand même décidé de t'embarquer là-dedans, sachant qu'il y avait un risque que tu perdes ta ceinture de championnat du monde. Pourquoi tu as décidé d'embarquer là-dedans alors que tu aurais pu probablement prendre 10 et 12 autres solutions possibles?
Mais en fait, moi, je suis, pour les gens qui me connaissent, je suis une fille de défi. J'ai besoin d'avoir des filles autour de moi. J'ai besoin de relever les choses. Puis, je suis celle qui pense qu'on grandit dans notre zone d'inconfort. Je pense pas qu'on grandit en restant dans les choses dans lesquelles nous sommes toujours confortables. Donc, pour moi-même, c'est important de faire ce défi-là. Mais aussi pour la popularité de la boxe féminine. Parce que je pense que si on veut rendre la boxe féminine populaire, si on veut rallier les amateurs à notre sport, il faut que les championnes arrêtent de regarder les défaites à leur fiche. Mm-hmm. Puis les championnes s'affrontent en pour donner des combats spectaculaires et pour permettre aux jeunes de découvrir notre sport.
Ah, écoute, tu as absolument raison. Écoute, je pense à mon bon ami Arturo Gatti qui a laissé des ceintures de championnat du monde à un moment donné disparaître parce qu'on voulait l'avoir dans une autre catégorie de poids, par exemple contre Floyd Mayweather ou Oscar De La Hoya. Mais ça prend énormément de courage. Justement, parle-nous du fait que hier soir, j'ai gardé le gala. C'est un moment historique parce que c'est le premier gala 100% féminin dans tous les combats qui était diffusé sur la télévision payante. Est-ce que ça aussi, ça a joué justement dans ta décision de dire, regarde, moi, je peux pas me cacher, je peux pas ne pas embarquer là-dedans si je veux que notre sport évolue, là?
Ben, en fait, c'est sûr que lorsque j'ai appris ça, ça l'a ajouté justement au plaisir de faire ce combat-là. Par contre, au départ, quand on avait entamé les négociations, initialement, c'était pas question d'un pay-per-view. Comme ça, c'était question d'être sur Showtime, puis par la suite sur UFC Fight Pass. Quand ça, l'éventualité du pay-per-view est arrivée, mais c'est sûr que ça a ajouté là à mon désir de faire ce combat-là. Mais au départ, c'était pas dans l'équation. Pour moi, c'était d'affronter Shields parce que c'est la meilleure, puis parce que je voulais prouver au monde que qu'il y avait ma place parmi l'élite mondiale. Puis c'est pour ça que j'ai pas arrêté une seconde dans ce combat-là. Puis tant qu'il restait une seconde au cadran, j'ai tout donné pour essayer de la solutionner.
Absolument. Moi, j'ai été vraiment surpris parce que tu étais clairement la plus active dans le ring. Là, vous aviez tellement deux styles différents, gaucher, droitier. Toi, tu étais très active, beaucoup en mouvement. Tu sautillais beaucoup. Tu te déplaçais de gauche à droite. Ton adversaire avait un style complètement différent, beaucoup plus calme. Elle t'attendait venir et je me suis dit, elle va finir par se fatiguer. Mais non, tu as gardé cette cadence-là du début à la fin du combat. S'il y avait quelque chose que tu voudrais faire différent, ce serait quoi?
En fait, je pense que je peux dire que j'ai aucun regret aujourd'hui, autant dans ma préparation que dans tous les moments qui ont mené à ce combat-là. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je sais qu'on a vraiment tout analysé, puis on était prêt à ça. On savait qu'elle allait agir comme ça. Par contre, de savoir quelque chose puis de réagir de la bonne façon au moment opportun. Ouais. Quand les coups arrivent à cette vitesse-là, des fois, c'est deux choses. Peut-être que j'essayais de mieux limiter ses attaques parce qu'elle était très exposée. Puis souvent, je restais inerte devant elle après mes attaques. Mais sinon, je dois lui lever mon chapeau parce qu'elle a été clairement la plus rapide, la plus incisive. Et malheureusement, j'ai pas été en mesure de solutionner pour être efficace dans mes attaques, pour être capable de placer des coups qui allait faire la différence. J'ai commencé à le faire vers la fin du combat parce que le facteur fatigue entrait en ligne de compte. Donc, j'étais en mesure de mieux placer mes coups parce qu'elle commençait à se fatiguer. Par contre, je dirais qu'au début du combat, on savait qu'on allait être deuxième si on restait de face. Puis c'est pour ça que j'étais toujours en mouvement de gauche à droite.
Oui, absolument. Bon, écoute, on t'a regardé aller. C'est sûr qu'à la fin, on était déçus du résultat final. Mais est-ce qu'à un moment donné, comme tu viens de parler de la fatigue qui a commencé à embarquer, mais y a-tu eu un moment dans le combat ou dans ton coin, ils t'ont dit « OK, il faut changer de stratégie, il faut faire quelque chose de différent parce que sinon, ça va être difficile de remonter la pente. » Et quel a été ce message-là? Et est-ce que ça aurait pu être fait différemment, là?
En fait, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'à tous les fois que je suis revenue dans le coin, on m'a pas donné les indications de boxer pour me protéger et de juste survivre. À tous les fois que je revenais dans le coin, on essayait de me donner des indices pour être capable de la solutionner. Ouais. Essayer de trouver une fight, essayer de trouver une solution pour que mes attaques soient efficaces. Donc, mon coin a fait un travail incroyable dans ce cas-ci. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai pas abandonné une seconde. Puis, du début à la fin, j'ai essayé de trouver la solution. Malheureusement, je ne suis pas parvenu à la trouver,
ouais.
Mais mon coin a fait un travail incroyable pour m'aider, pour m'aiguiller dans le choix de ces solutions-là.
Écoute, moi, j'ai trouvé que défensivement, parce qu'avant le combat, elle avait donné une entrevue, puis elle parlait de sa défensive, mais tu sais, je ne pouvais pas vraiment y croire avant de l'avoir vue, mais à plusieurs reprises, tu l'as attaqué farouchement, férocement, et j'étais certain comme, tu sais, t'allais être capable de l'ébranler, t'allais être capable de la sortir de sa zone de confort. Ça n'a pas été le cas. Écoute, elle a été quand même assez surprenante. S'il y avait une chose que tu avais identifiée dans ses qualités que tu dirais qui vraiment là, donne de la difficulté aux adversaires, ce serait quoi?
Je dirais que c'est la fraction de seconde qu'elle a en contre-attaque. D'être capable d'encaisser le coup de poing qu'on va lui donner pour nous relancer une mitraille de coups. C'est souvent ce qui m'a pris par surprise, même comme je le disais, je m'y attendais, j'étais prête à ça. Par contre, à la vitesse que ça arrivait, je me suis fait surprendre à quelques reprises parce que moi, je pensais avoir placé un bon coup. Mm-hmm. Elle utilisait ce bon coup-là, elle roulait ce coup-là pour m'en donner 5-6 en retour.
Ouais.
Donc, je pense que ça, c'est vraiment une de ses grandes forces.
Bon, Marie-Ève, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser aller te reposer et on va poursuivre cette discussion-là dans une heure avec Yvon Michel parce qu'il y a plusieurs autres histoires, plusieurs autres dimensions à cette soirée de boxe-là, notamment la grandeur du ring et tout cela. Donc, on va pouvoir discuter tout ça avec Yvon Michel tout à l'heure. Je voulais simplement, avant de te laisser partir, te dire, parce que je reçois beaucoup de messages sur les médias sociaux de ce matin, les gens veulent s'assurer que tu comprennes à quel point ils sont fiers de toi, puis surtout ils admirent ton courage d'être allé là-bas sur un terrain adversaire contre une grande championne comme ça, et on est certain que tu vas sortir de cela avec encore plus d'expérience et que ça va te servir dans tes combats futurs. Donc bon chemin, bonne route vers Montréal et le Québec au complet te salue, puis on a hâte de te revoir.
Merci beaucoup, c'est vraiment très apprécié. Il y a beaucoup de boxeurs qui se sentent seuls dans la défaite. De mon côté, c'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression d'avoir une nation complète derrière moi. Et vous n'avez pas idée à quel point ça me donne du courage pour la suite des choses.
Excellent. Merci beaucoup, Marie-Ève Dicaire. On s'en reparle très bientôt. Alors, Marie-Ève Dicaire qui s'est inclinée hier soir, malheureusement, à Flint, au Michigan. Mais attention, parce que c'est pas impossible que son adversaire d'hier soir, Clarissa Shields, abdique à ses ceintures puisqu'elle pourrait décider de changer de catégorie de poids. Donc peut-être que ces ceintures-là redeviendront vacantes et qu'il y aura une autre opportunité pour Marie-Ève Dicaire de remettre la main sur une d'entre elles ou peut-être même plusieurs d'entre elles. On s'arrête le temps d'une courte pause. On va poursuivre avec Ray Lalonde avec du sport business au retour de ceci. On reviendra à la boxe là, vers 13h20. Merci d'être là avec nous.